France Culture.
Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Lynn Amselem, qui publie Petites histoires de la rue Saint-Nicolas aux éditions Alia. Les rideaux. C'est pratique parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. L'espagnol, Lynn Amselem, c'est une langue que vous n'ignorez pas complètement.
Non, c'est ma langue maternelle, et plus précisément le judéo-espagnol du nord du Maroc, la Hakatia.
Aujourd'hui, vous enseignez un peu la littérature et les arts des siècles passés en Espagne, et particulièrement 16e et 17e siècles.
Voilà, oui, j'en ai fait mon métier.
Vous traduisez des livres, vous êtes venu ici, dans du jour au lendemain, il y a 2 ou 3 ans, nous parler des complaintes gitanes de Garcia Lorca, que vous avez traduit aux éditions Alia. Et vous avez traduit d'autres livres, Incitation à l'amour de Dieu, par exemple, d'un auteur anonyme.
Oui, c'est un texte du XVIe siècle.
Et les soliloques amoureux d'une âme à Dieu.
Oui.
Une âme.
Oui, c'est un très beau texte de Lope de Vega qui est sorti en même temps que les petites histoires. Oui, c'est de la poésie religieuse du XVIe siècle, qui est pleine d'ardeur sensuelle.
Et vous pensez que, comme Lope de Vega, vous entrerez vivante dans la légende ?
La fortune et la légende de Lope de Vega est très incertaine en France. Pour moi... Je préfère être dans la vie.
Et dans le récit ?
Dans le récit, oui.
Puisque ce livre-là, Petites histoires de la rue Saint-Nicolas, c'est votre premier récit, mais on sent bien que ça ne sera pas le dernier.
Ah, oui, merci de me prédire d'autres livres. Oui, j'aime beaucoup raconter des histoires. Et voilà, donc c'est la première fois que je mets les histoires en forme et qu'elles paraissent en un livre.
En partant de votre propre histoire ?
Oui, beaucoup. Les histoires de mon enfance. J'avais au départ très envie de témoigner de la culture de mes parents, de cette langue qui est très peu connue, très peu étudiée, contrairement à d'autres judéo-espagnols. Le judéo-espagnol des Balkans, de Turquie, de Grèce. Le judéo-espagnol du Maroc est très très peu étudié. Il n'y a pas de littérature en Hakatia. Rien n'existe. Et comme le temps passe et que les gens disparaissent, j'avais très très envie d'en faire quelque chose. Au début, j'avais pensé en faire un travail universitaire. J'ai commencé à travailler dessus. Et la vie m'a entraînée ailleurs. Et c'était resté dans mon esprit, j'avais très envie d'en parler.
Je remarque le pluriel du titre, « Petites histoires de la rue Saint-Nicolas ».
Oui, parce que ce sont des anecdotes, des histoires très brèves, il y en a beaucoup.
Des fragments.
Oui, bah, des fragments, oui, mais en même temps, je voulais que les histoires commencent et finissent, comme de petites paraboles pour essayer de raconter, d'en dire un peu plus long, et de laisser au lecteur la possibilité d'imaginer tout ce qu'il y a derrière. Ce sont des anecdotes, des histoires de vie.
Qui composent une sorte de puzzle.
Voilà. Voilà, oui.
Avec des souvenirs personnels qui ont vocation à devenir universels. Chacun peut retrouver son histoire à travers celle qui est racontée ici.
Ça, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. En général, quand j'ai raconté, au début, quand j'ai écrit les histoires, j'étais tellement impressionnée à l'idée de donner un écrit qui venait de moi et non plus une traduction, que je les racontais. Je préférais être l'intermédiaire entre le texte et le lecteur, donc qui devenait auditeur, et je racontais les histoires. Et en général, quand je les racontais, très souvent on me disait « Ah oui, ça me rappelle quelque chose ». Alors les souvenirs sont variables, et je pars de quelque chose qui est très, très petit, qui est très peu connu, et quelquefois ça a des échos universels. J'ai un peu de mal à le dire, mais puisque vous l'avez employé, je le reprends.
Pour faire un livre avec des histoires comme celle-ci, il faut d'abord trouver un mode de rassemblement des matériaux, ensuite une construction, car un livre, c'est tout de même un livre, c'est pas un recueil de textes. Mmh. Et puis enfin, et surtout, il faut trouver un ton qui va homogénéiser l'ensemble. C'est du travail pour un auteur.
Oui, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple. Parce que je voulais les raconter sans aller trop loin dans la confidence même. Je voulais rester un peu en deçà des choses. Et je ne voulais pas non plus être didactique, pédagogue, donner un cours d'histoire juive, un cours de langue espagnole ou un cours de sociologie sur les gens arrivés dans les années 60 en France. Alors, comme vous le dites très bien, au moment où j'ai trouvé une façon de le raconter, je m'y suis tenue. J'ai préféré prendre ma voix d'enfant pour raconter les choses telles qu'elles étaient à l'époque. Bien sûr, je ne peux pas les raconter exactement telles qu'elles étaient, telles que je les recompose et telles que ma mémoire me les restitue. Voilà, en racontant comme un enfant, je raconte au présent. Ça m'évite aussi la nostalgie de l'imparfait, parce que j'ai écrit ce livre au moment où j'ai perdu mon père. Un peu pour lui, beaucoup pour moi, enfin bon.
Mmh. Est-ce que ce n'est pas justement quand on perd son père qu'on n'est plus un enfant ?
Si. Si, bien sûr. Et pour moi, c'était aussi le moment où je n'étais plus un enfant, où je pouvais dire adieu à l'enfant que j'étais, mais en même temps... J'avais un enfant devant moi, mon fils, et je me mettais un peu à sa place, peut-être.
Thank you. Le livre, donc, L'Inam Selem, s'intitule « Petites histoires de la rue Saint-Nicolas ». Il est publié chez Alia, qui chaque année à la rentrée nous réserve de bonnes surprises. La rue Saint-Nicolas, chacun peut la trouver. Elle existe.
Oui, oui.
C'est pas le pur produit de votre imagination. Elle est située à Paris, dans le 20e arrondissement, près de la station de métro Ledru-Rollin.
C'est dans le 12e, pas très loin du 20e. Oui, oui, oui. J'avais hésité, j'avais pensé peut-être changer le nom de la rue, comme j'ai changé le nom de tous les personnages.
Donc c'est un arrondissement plutôt populaire.
Un peu moins maintenant.
Oh ben, maintenant, il n'y a plus d'arrondissement populaire, il y a des bobos partout.
Voilà. Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais le côté populaire perdure quand même hein, dans ce quartier-là, vers le marché d'Aligre, la Bastille. Oui, oui, ça perdure.
Et un regard d'enfant a de quoi se nourrir.
Oui, les enfants se nourrissent de toutes petites choses quelquefois.
Parce que l'enfance, c'est une vie à elle toute seule, avec ses stupeurs, ses frayeurs, des joies intenses aussi qu'on ne retrouve plus quand on est plus grand, des règles, des folies.
Oui, oui. Mais le monde de mon enfance était vraiment assez réduit à ce quartier, à la maison aussi, beaucoup. Beaucoup. Mais en même temps, tout était, comme vous le dites, matière à joie et à folie, à magie. Et c'est ce que je voulais aussi. Quand je vous parlais de ce choix de parler comme un enfant, c'était aussi pour éviter le côté misérabiliste, parce que notre famille était très modeste. Et c'était souvent le cas de beaucoup d'immigrés. Mais vu par un regard d'enfant, les choses deviennent toutes normales. Disons, les règles sont énoncées simplement. Et les contraintes peuvent être contournées et devenir des jeux, des choses qui, surtout avec la fratrie, deviennent des rituels, des tas de choses qui nous appartiennent à nous en propre.
Il n'y a pas que des choses, hein, dans le regard de l'enfant, il y a des adultes aussi, il y a des êtres.
Oui.
Comme par exemple cette Madame Cohen. Madame Cohen, dont vous faites le portrait au présent, parce que c'est quelqu'un sans doute qui existe toujours.
Elle n'existe plus, elle. D'autres existent encore.
Qui sont absolument les mêmes.
Et voilà, oui, oui, oui. Oui. Donc, oui, Madame Cohen, c'était notre voisine. Et elle était juive tunisienne. Donc, la rencontrer, c'était une autre façon d'être... juive, et puis c'était les mystères de la voisine. Donc, je le raconte au début du livre, elle arrivait toujours extrêmement chargée, on se demandait pourquoi. Elle arrivait à la maison, fatiguée, comme ça, elle parlait du nez, et on l'aidait à rapporter ses affaires, elle nous parlait en arabe, on ne comprenait pas. Et voilà, et donc on a compris plus tard, pour quelle raison elle était toujours si chargée alors que ses enfants étaient déjà partis.
Il y a d'autres personnages comme ça dans votre livre, hein, parce que c'est ce qui fait aussi sa richesse, cette description de toutes sortes de personnages plus vifs que dans la réalité. Par exemple, monsieur et madame Chibidjan.
Oui, voilà, c'est des personnes très importantes de mon enfance, parce que cette dame... arménienne, elle nous permettait, bon, c'était aussi l'histoire de l'immeuble, donc elle connaissait ce qui s'était passé avant, et puis elle parlait beaucoup avec les uns et les autres, donc elle faisait un peu office de concierge, et en même temps, elle était presque aussi comme une grand-mère, quelquefois très aimante, voilà, Et en même temps, elle était orientale, alors elle disait « nous », en parlant des orientaux comme les juifs, les arméniens. C'était la même histoire, quelquefois, pour elle. Voilà, c'est quelqu'un de très important. Mmh.
Mais vous, votre famille, vous étiez des privilégiés parce que vous aviez le téléphone.
Ah
et,
oui.
Et il n'y en avait pas beaucoup qui l'avaient à cette époque-là.
Dans l'immeuble, on était les seuls. Et puis, il y avait aussi le café en bas. Qui avait le téléphone.
Donc vous étiez un peu la cabine téléphonique de l'immeuble.
Un peu, oui. Donc on entrait les uns chez les autres pour pouvoir téléphoner ou pour demander un peu d'aide, quelque chose qu'on aurait oublié, un verre d'huile, des choses comme ça. Et notre voisine venait téléphoner, alors on entendait ce qu'elle racontait. Elle s'excusait. Après, il y avait toutes les courbettes pour payer la communication. Ma mère ne voulait pas. Et nous, on regardait ça. Donc, ça durait. Ça faisait partie de la vie. Et puis, il y avait l'écouteur. Il y avait le combiné. Il y avait la personne qui pouvait écouter. Et puis, il y avait un petit écouteur derrière le téléphone en bakélite. Et on avait le droit d'écouter les conversations en se taisant. On grimpait comme ça sur le buffet et on écoutait la conversation avec notre mère, pas avec la voisine, non, quand même pas.
Votre grand-père paternel était rabbin, professeur d'hébreu, d'arabe et juge du tribunal rabbinique. C'était donc quelqu'un.
Oui. Ben, je ne l'ai pas connu. Alors là, c'est une. Je raconte. J'ai très peu de souvenirs de mon père. Il était comme beaucoup de messieurs méditerranéens, très secret. Mais il a fini par nous raconter quelquefois quelques-unes des histoires de son enfance. Alors ça, c'est une histoire de circonstance puisque c'est une histoire de Kippour. Donc son père. Allait, comme tous les rabbins, parce qu'on doit tuer des poulets à Kippour, il allait tuer des poulets à la chaîne. Donc chaque famille doit tuer une poule pour chaque femme de la maison et un coq, un poulet, disons, pour chaque homme de la maison. Donc il les tuait à la chaîne et il avait emmené mon père avec lui. Mon père qui était un petit qui courait un peu partout dans sa ville natale, Larache, qui était une ville où il y avait une garnison. C'était l'époque de la guerre d'Espagne, un peu plus tard. Et voilà, donc il partait avec ses petits copains espagnols. Et ce jour-là, son père lui a mis le grappin dessus, lui a dit « Viens avec moi tuer les poulets ». Donc mon père est allé avec son père. Et au bout d'un moment, à force de voir du sang, il a été malade et son père a vu ce qu'il avait vomi. Et comme mon père courait avec ses petits copains, il allait y pêcher des écrevisses, il tuait des petits oiseaux. Et ce jour-là, quand il a vomi, son père a vu qu'il avait mangé des écrevisses. Et lui dit « Esos lo que pasa por comer araixas ». Las araixas sont donc les écrevisses. Donc c'est une punition divine du jour de Kippour.
Les fêtes sont nombreuses et elles ponctuent l'existence, le temps. Quelquefois, elles sont vécues, surtout par les enfants, comme de véritables contraintes.
Oui. La vie, mes parents ont apporté du Maroc, donc la vie, ils ont essayé de la recréer telle qu'elle était là-bas. Donc la course, comme pour tout, je pense, comme beaucoup d'immigrés, c'est de trouver ce qu'il faut pour faire le plat qu'on voudrait faire à un certain moment. Et donc, comme les fêtes sont nombreuses dans le calendrier juif, il fallait faire donc la zaadas. Donc, pour chaque fête, apporter tous les mets rituels. Et puis, faire toutes les prières, dire toutes les chansons. Et pour nous, c'était interminable. C'était fatigant. On n'aimait pas manger ce qu'on devait manger. On n'aimait pas écouter ce qu'il fallait écouter. On avait sommeil. On était fatigués. Et en même temps, en racontant ça de mon point de vue, j'avais envie de raconter toutes ces fêtes qui aujourd'hui me semblent belles et c'est une façon de vivre qui n'existe plus. Donc ce judaïsme traditionnel, très très rythmé, très très ancré dans des habitudes de vie.
Oui. Il y a des fêtes qui sont en fait des réservoirs d'interdits et qui tombent mal, qui pourrent par exemple toujours au début de l'année scolaire.
Oui, alors là c'était une épreuve à chaque fois. Aller dire à la maîtresse qu'on était juif, quoi. Il fallait dire je ne serai pas là pour le grand pardon ou pour une fête religieuse. Alors on voyait, il y avait le moment où l'un des juifs de la classe, si on était plusieurs, allait au bureau s'excuser. Alors on voyait qui y allait, après on racontait à nos parents, voilà, il y en a tant dans la classe. Et ouais, on avait vraiment le sentiment d'entrer à l'école après Kippour. Mais Kippour, c'était vraiment une souffrance d'être toute la journée à la synagogue, parce que ma mère allait tôt. On était là, il faisait chaud, c'était... Mais bon, c'était en même temps quelque chose qui nous permettait de commencer l'année en rencontrant toujours les mêmes personnes. C'était la seule fois où on allait à la synagogue de l'année, parce que mes parents étaient très attachés aux traditions, mais pas très religieux dans le fond. Enfin, ils avaient la foi, mais pas un attachement, surtout pas à une communauté ou à quelque chose qui aille vraiment au-delà de la famille. C'est une façon très rassurante de vivre le judaïsme, très simple.
Elle était très belle, votre synagogue.
Oui, celle des Tournelles. Belle comme une église.
Un peu secrète.
Oui, bien sûr. Des couloirs secrets, des endroits qui grincent, des sièges où on est très mal assis en haut, et puis des étages inaccessibles. Un étage en bas uniquement réservé aux hommes qui ont des sous. Alors, et puis avec tout ce qu'on nous racontait, le siège d'Enrico Macias, tout ce qu'on voyait d'en haut, puisque nous on était au troisième étage, l'étage libre, et on regardait en face notre papa en train de prier. On le voyait là avec tous les autres papas, tous ces autres hommes, et on voyait le nôtre en face de nous, comme ça. Et c'était merveilleux de se sentir attaché à lui, bon, parce que la synagogue est organisée comme ça, avec deux galeries de part et d'autre. Donc on le voyait très loin, et on lui faisait des signes, et on l'aimait de loin. Il y avait un moment où on pouvait aller. On courait derrière l'orgue et on allait retrouver notre père au moment où il y avait une bénédiction, comme ça, où on se mettait sous son châle de prière, et c'était délicieux d'être éloigné de papa et de courir et d'avoir le droit d'être avec lui, comme ça, avec plein d'odeurs de papa en dessous, et puis les franges, et puis être là, et puis se mettre à rire sous le tallet. C'était très très bon, ça.
Comment vous représentiez le Maroc dans ces années-là? Est-ce que c'était pas un peu le paradis perdu? Parce que il vous était raconté, surtout par votre mère.
Ah, alors le Maroc, ma mère nous en disait, Tanger, c'était international. Alors nous, on ne savait pas ce que ça voulait dire, c'était international. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? On avait de tout petits éléments comme ça. On avait l'impression que c'était comme un film américain. On disait, voilà, il y avait Clark Gable, il y avait Burlancaster, il y avait et puis des bonbons extraordinaires, des salles de cinéma magnifiques, une plage de sable fin, nous qui n'avions jamais vu la plage, et puis il y avait ceci, il y avait cela, on pouvait trouver tout ce qu'on voulait à Tanger, les étrangers venaient, etc. Et donc on avait le sentiment que c'était l'Amérique, quoi. L'Amérique au bord de la plage, quelque chose d'extraordinaire, de magnifique. Et on a mis très longtemps à comprendre que c'était un pays arabe, en fait. Parce qu'on ne parlait jamais des Arabes. C'était... Ma mère ne parle pas l'arabe. Elle sait dire quelques mots, mais on pouvait très bien vivre au Maroc sans parler l'arabe. D'ailleurs, certains refusaient de l'apprendre. Elles voient refuser de l'apprendre.
Il n'y avait pas que des fêtes dans la vie, l'Inam Selem, et dans Petites histoires de la rue Saint-Nicolas, vous racontez un deuil. Un deuil qui n'est pas une petite affaire. Il a duré longtemps, un an pour Mama Esther.
Oui, c'était un gros traumatisme de l'enfance. La mort de la mère de mon père. Et donc on a compris ce que c'était que la mort, et puis les règles du deuil étaient très très strictes, donc impossible de rire, de regarder la télévision, on écoutait la radio le soir, il y avait une ambiance comme ça extrêmement pesante. Mon père est parti pour veiller le corps de sa mère pendant, et donc on comprenait pas, on nous a raconté sa mort, on nous a raconté des tas de choses, et pour nous ça a été oui, énormément d'interdits. Et ça a été aussi peut-être le moment où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. J'avais 7-8 ans, et c'est à ce moment-là, plus ou moins, que j'ai décidé de terminer de raconter ces histoires. Ça correspond à peu près à ce moment-là. Mais qui était aussi un tournant historique, c'était en 1974, et beaucoup de choses ont basculé dans l'histoire de France et dans l'histoire du monde. Et moi, j'ai un peu ouvert les yeux et j'ai commencé à me rendre compte de beaucoup de choses. Mais je pense que les choses sont parties de ce deuil-là. Mmh. Et en fait, je raconte qu'à ce moment-là, donc on avait l'interdiction de regarder la télévision.
Mais vous pouviez écouter la radio.
On pouvait écouter la radio.
Parce que c'est moins festif, la radio.
Oui, oui. On écoutait la radio le soir. C'était d'une tristesse. Vous ne pouvez pas imaginer. D'être comme ça, privé des choses, surtout par rapport aux autres enfants.
Mm-hmm. Et puis ça tombait mal, parce que cette année-là, il y avait une nouvelle émission qui commençait, qui était L'île aux enfants.
Voilà. C'était... Et donc pour... comme tout le monde en parlait à l'école, moi j'ai demandé à pouvoir aller chez une copine pour pouvoir regarder cette émission-là. Alors je suis allée chez une copine du quartier, et donc c'était pour moi aussi l'occasion de raconter cette maison qui était encore plus pauvre que la nôtre. Elle était fille d'un boucher, ma copine. Et donc j'y suis allée, et donc j'ai vu sa maison. Donc elle avait son père, sa mère, un frère et elle, et ils avaient deux pièces. Il y avait une pièce où ils dormaient tous, et puis il y avait une cuisine, salle de bain, salle à manger, avec la télévision au-dessus du frigo. Et donc moi j'y étais allée normalement pour voir Casimir, et j'étais fascinée par sa mère qui avait préparé un coq au vin. Alors c'était une fascination. J'ai l'impression de revoir ce coq au vin, comme ça, cette femme qui coupait les morceaux de poulet, elle les a tous mis dans une cocotte, et après elle a versé une bouteille entière de vin. Alors que pour nous, le vin, c'était vraiment la boisson rituelle du Shabbat. Pour Shabbat, mon père buvait une coupe de vin, et tout le monde goûtait dans cette coupe, et c'était tout. Et voir comme ça, c'était les Français qui boivent du vin, les Français qui mangent du vin. Et voilà, j'étais toute impressionnée par les rondelles de carottes dans le vin, comme ça, tout noir dans la cocotte. Mmh. Et j'ai pas aimé Casimir.
Alors, plus de télévision, plus de rire, plus de chansons.
Plus de chansons, non. Et ma sœur en est même tombée malade. Voilà, donc il y avait toutes les... Oui, cette interdiction avec toutes les chansons de ces années-là, des années 70, qui nous faisait tellement plaisir, avec Claude François, etc. Ces bonnes et belles choses. Et voilà, donc tout ça, ça a été interdit. Ma sœur s'est évanouie dans la rue, ça a été un grand traumatisme.
Plus le droit de se maquiller non plus.
Pour ma mère. Alors, oui, les choses étaient comme ça, ont été fixées dans mon esprit parce qu'elle est allée, ma mère s'est transformée. Comme ça, très rapidement. Mon père aussi, pour le deuil, mon père a laissé pousser sa barbe, il a porté un chapeau. Il est devenu quelqu'un d'autre, un peu comme ça, un peu distant. Et ma mère s'est attachée les cheveux, elle portait un gros bandeau noir, comme ça, on voyait son visage tout tiré. Et elle a mis un galon noir sur son manteau beige. On portait beaucoup de manteaux comme ça, beige, dans ces années-là. Petit manteau croisé, elle s'est mis un galon noir. Et voilà. Et quand on est petit, on est très impressionné par tout ça.
Chez vous, deuil ou pas deuil, pas de coq au vin à table. Mais vous racontez les repas.
Oui.
Très réglementé aussi. Hein. C'est le père qui est toujours servi le premier.
Oui, bien sûr. Le père d'abord, et après, chacun selon son âge. Ma sœur, mon frère, et je ne sais pas pourquoi, ma mère et moi. Donc moi, j'étais la plus petite. Et je regardais tout ça. Au bout d'un moment, ça a fini par m'énerver quand j'ai grandi, hein, je dois vous l'avouer. Mais c'était comme ça.
Le féminisme n'était pas passé par là?
Non, pas vraiment. Pas vraiment. Et de toute façon, mon père était l'autorité suprême. Ma mère l'appelait mon roi, quoi, Mireille. Il y avait beaucoup d'amour entre mon père et ma mère. Ça, c'est une belle chose.
Jamais de disputes?
Des disputes entre eux, non. Pas vraiment. Pas de disputes, non. Des taquineries, beaucoup, mais mon père était une autorité incontestée. En tout cas, pas devant lui. Vous savez, les familles traditionnelles se débrouillent avec cette autorité. On tourne, on la contourne, mais on l'affronte jamais.
Tous les samedis midi, c'est la Daffina. Un plat préparé le vendredi après-midi par la mère et qui le laisse cuire à feu très doux pendant toute la nuit.
La daffina, c'est une grande chose. Oui, c'est comme une espèce de pot-au-feu.
Oui.
Quand on était petit, on n'aimait pas ça. On n'aimait pas ça. Parce que oui, comme on n'a pas le droit d'allumer le feu le samedi, pendant tout le Shabbat, comme le Shabbat commence le vendredi soir et s'achève le samedi soir, c'est comme ça qu'on compte les jours pour les Juifs. Et donc, il faut préparer le repas de midi, du samedi midi, le vendredi, avant que le soir ne tombe. Et donc, la daffina, c'est un plat rituel qui veut dire, en fait, c'est quelque chose qui était caché dans les cendres, dans les fours traditionnels qu'on appelle un annafé. Et dans l'annafé, on mettait... Enfin, je pense que c'était vraiment dans des cendres. Je ne sais pas, je ne peux même pas vous le dire, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas comment on le faisait traditionnellement. Mais chez nous, donc, il y a des pois chiches, des pommes de terre, de la viande, des œufs. Et ça cuit tellement longtemps que tout est caramélisé. C'est très bon. Donc, mais quand on était petit, on n'aimait pas ça. Et puis on en avait marre de la daffina, on en avait marre.
Il faut beaucoup mâcher.
Voilà. Donc il y avait surtout la viande. Quand on est petit, moi, on mâchait. Puis on nous obligeait à manger un bout de viande. Au bout d'un moment, ça devenait comme du coton dans la bouche. Alors, quelquefois, quand ma mère nous voyait vraiment désespérée, elle acceptait qu'on crache notre boulette, comme ça, au bord de l'assiette.
Votre vie a changé en 68?
En 68. En 68, ça c'est...
Vous reconnaissez que c'était une bonne année.
68. Moi, j'ai un souvenir très lointain de cette histoire de 68, mais j'étais vraiment toute petite, mais je crois que ça doit être un de mes souvenirs les plus lointains. Je me souviens qu'on courait autour de la table avec mon frère et ma sœur en criant... De Gaulle assassin, parce qu'on entendait ça dans la rue. Voilà, et je me souviens, j'ai un souvenir très vague des lumières la nuit, et de, je ne sais pas si c'est un vrai souvenir ou un souvenir que j'ai recréé, de ma mère qui envoyait des mouchoirs aux étudiants en bas, à cause des bombes lacrymogènes.
Et surtout, en 68, votre père ouvre une boutique.
Ah, alors là, oui. En mai 68, il a eu le bon goût d'ouvrir sa boutique. Il était cordonnier, mon père. Et donc, il a ouvert sa boutique. Et c'était chez papa. On allait chez papa. Et donc là, parce que comme je vous dis, mon père était très secret. Et alors, il nous racontait les histoires des clients. Donc, il y avait des clients, il disait, voilà, il y a un banquier qui m'apprécie. Et puis, il rapportait des choses du magasin. Alors, on demandait d'où ça venait. Il nous racontait ce qu'il voulait bien raconter. Et quelquefois, tout était mystérieux. Il disait, je ne te raconte pas. Et il ne nous racontait pas. Et ça durait. Et il ne nous a rien raconté quand il ne voulait pas. Et il avait une admiration, par exemple, pour Johnny Hess. Johnny Hess, qui lui a offert une paire de lunettes. C'était des lunettes immenses comme ça. Alors il se les mettait le week-end. Des lunettes de Johnny Hess comme ça. Il ouvrait un petit peu sa chemise. Il mettait comme ça les mains derrière le dos. Et il était beau comme tout. Avec les lunettes de Johnny Hess.
Le dernier fragment du livre s'intitule « J'oublie tout ». Heureusement qu'on arrive à la fin du livre.
Oui. Mais je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. C'est quelque chose de... Parce que, bon, c'était un peu prendre les choses à l'envers, de dire « j'oublie tout ». Parce que dans ce livre, je montre que je n'ai pas oublié grand-chose. Mais ça, c'est vrai. C'est quelque chose que j'oubliais. Mon frère a été très, très dur avec moi pendant toute mon enfance. C'était une souffrance quotidienne et permanente. Et vous n'êtes pas le seul à m'interroger sur ce livre et vous êtes le premier à m'en parler. Ça me trouble un peu. Et voilà. Donc, mon enfance, c'était tous ces souvenirs très beaux, toutes ces choses comme ça, très belles, cette vie chaleureuse et rassurante, et en même temps quelqu'un qui était là et qui tous les jours me faisait du mal, qui me frappait, qui m'insultait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Voilà.
Et ça, c'est une violence qui ressurgit quand on se penche sur son enfance.
Si j'ai pu écrire ça, c'est parce que, sans doute, parce que j'ai pu vivre malgré ça. Ça n'a pas été simple, pas toujours. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, à en parler, etc. Et puis ensuite, j'ai réussi à avoir une vie, à grandir, à avoir des enfants, à travailler. Et voilà. Donc c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre.
Petites histoires de la rue Saint-Nicolas, le livre de Lynn Amselem est publié aux éditions Alia. Du jour au lendemain, Mathieu Leroy, Pierre Villers, François Poirier, Alain Weinstein, bonsoir.